Les fascistes, eux autres, on les aime pas, c'est pas des gentils. Les anticapitalistes, parfois, on les aime pas non plus. Ici, à Mélémission, on les aime quand même assez bien. On leur donne souvent la parole. D'ailleurs, j'ai en face de moi Marie-Ève de La Claque, qui est ici pour nous présenter la chronique mensuelle de La Claque. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Simon.
Alors ce mois-ci, une troisième entrée à l'abécédaire anticapitaliste de La Claque, c'est comme concertation.
Oui.
Pour parler de gentillesse et de méchanceté, c'est un angle intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par concertation?
Ben en fait, c'est ça, avant de commencer à en faire une analyse, une critique, il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est. On va y aller avec une définition la plus simple possible, puis la plus neutre possible. On attaquera après. Une définition qu'on pourrait donner de la concertation, c'est que c'est une action par plusieurs personnes de s'accorder en vue d'un projet commun.
C'est gros
simple.
Projet.
C'est différent d'une négociation, par contre, c'est pas pareil, puisque contrairement à une négociation, la concertation aboutit pas nécessairement à une décision, mais vise plutôt à la préparer. Et c'est pas non plus comme une consultation, parce qu'une consultation se résume à une demande d'avis, c'est-à-dire aller chercher des avis, des opinions, alors que la concertation supposerait, je le dis au conditionnel, la confrontation entre les différentes parties qui sont impliquées, l'échange d'arguments, puis l'explication des points de vue.
Dans le but d'en arriver à un accord plus ou moins commun.
Voilà. Donc, on peut voir, si on prend cette définition, cette simple définition-là, en soi, la concertation, c'est pas genre le mal absolu.
Non, ça a l'air gentil, en fait.
Ça a l'air pas pire gentil. Ça peut même être bénéfique parce que, surtout pour les collectivités, lorsque des gens se mettent ensemble, par exemple, pour défendre le bien commun, il s'agit alors là d'un travail de collaboration, de partage et d'entraide, comme dans le cadre de coalition, par exemple. On peut prendre parmi des exemples celui de la classe pendant la grève étudiante de 2012, c'est-à-dire la coalition large de la C, ou encore actuellement la coalition main rouge contre la tarification des services publics, pour la défense des services publics. Donc, on se rend compte que dans ce cadre-là aussi, bon, évidemment, les gens sont là pour un peu les mêmes intérêts, un but commun, mais aussi, c'est des gens qui sont, disons, tous sur le même pied de l'égalité. Des gens d'un même quartier, des gens d'un même... Donc, c'est important qu'on ait vraiment tous... C'est ça. Tous
pas de rapport de pouvoir.
Pas de rapport de pouvoir, pas de rapport... Il n'y a pas de rapport de force, vraiment. Quand on parle, encore une fois, de celui où est-ce que, dans les cas où ça peut être bénéfique, où c'est pas méchant.
J'imagine là, qu'on va y venir. Hein?
Oui, c'est exactement là que je m'en viens. Là où, justement, ça devient un problème, c'est que, évidemment, comme je l'ai dit, la concertation implique d'avoir un minimum d'intérêt commun qui soit réel ou présumé. Et donc, ça devient un problème lorsque cette concertation-là et de l'initiative d'une élite, c'est-à-dire que ce soit l'État, le patronat, des entreprises, etc., où là, autour de la table, finalement, il y a un déséquilibre au niveau du poids des représentants, représentantes en guillemets, ou donc un déséquilibre du pouvoir. C'est là que ça devient problématique. Prenons l'exemple, par exemple, de l'État, d'une initiative où c'est l'État qui est à l'initiative d'une concertation, d'un exercice de concertation. À ce moment-là, souvent, ça va s'exercer, cette concertation-là va s'exercer dans le cadre de soit d'une commission publique, d'une commission d'enquête, d'un bureau d'audience, ou encore lors de sommets ou de forums. Pour que l'exercice fonctionne, il faut évidemment que des gens y participent. Des gens qui sont concernés par des enjeux de près ou de loin. Mais est-ce que ça peut vraiment fonctionner justement quand on assoit à la même table des syndicats, des ministres, des groupes communautaires, des entreprises, des think tanks de droite, des représentants du mouvement étudiant, du mouvement des femmes? Est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Parce que là, à ce moment-là, c'est qu'on suppose que tous ces acteurs-là partagent les mêmes intérêts.
Ce qui est probablement fort discutable quand on pense à certains exemples. Puis je pense que tu t'en viens là-bas, là, mais un exemple de concertation mettant plein de gens ensemble, les forums économiques, forums Puis bon, là, en ce moment, on est dans une politique d'austérité. Le gouvernement concerte personne, il coupe. Mais dans le passé, le gouvernement a fait les mêmes genres de choix, mais sous le couvert du consensus social. Le Forum de 96 en est un bon exemple.
Oui, c'est ça, un exemple. Bon, c'est sûr, c'est un exemple un peu lointain. On remonte à 96, à l'époque où le PQ était au pouvoir. C'était Lucien Bouchard qui était premier ministre du Québec. Il avait tenu cette grande messe du néolibéralisme. Une des premières fois où on a vraiment martelé l'objectif du déficit zéro, hein, c'est que l'austérité là, ça date pas d'hier, hein. Donc c'était le sommet sur l'économie et l'emploi qui était en 96. Tout le monde était là à la même table, les syndicats, les groupes communautaires, groupes de femmes, mouvement étudiant, le patronat, vraiment tout le monde. Et c'est entre autres là, ce forum était organisé en chantier de l'économie. Donc il y avait 4 chantiers différents. Et c'est un peu là d'ailleurs qu'on a vu la naissance de ce qu'on appelle l'économie sociale, cette duperie qui sert entre autres qui sert le désengagement de l'État en transférant des emplois bien payés du secteur public vers des emplois mal payés dans le communautaire, tout ça bien sûr en partenariat avec le privé. Donc c'est vraiment là qu'on a vu l'émergence de cette ce concept. C'est plus juste un concept là, il est vraiment mis en pratique, on le voit aujourd'hui. Mais également, les seuls à avoir claqué la porte à l'époque de ce sommet-là, ça a été le mouvement étudiant devant la menace de Pauline Marois, qui était à l'époque ministre de l'Éducation. Donc devant sa menace de procéder à un dégel des droits de scolarité. Et donc le mouvement étudiant avait claqué la porte, mais même au sein du mouvement étudiant, presque tout le mouvement étudiant y participait, les grandes associations étudiantes, de grandes fédérations étudiantes, pardon. Mais le seul qui avait refusé de participer, c'était le MDE, le Mouvement pour le droit à l'éducation, qui est l'ancêtre de l'AC. Donc ça nous donne un peu une idée de qui participe, parce que justement une des choses de ces forums là c'est que de ces lieux de concertation, c'est que pour y participer, faut être un groupe organisé entre guillemets. Donc ça veut dire que ça exclut des gens de facto qui, eux, ne sont pas organisés. Par exemple, si on parle des travailleurs-travailleuses non syndiqués, des personnes sans emploi, des personnes itinérantes, souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement de réseau organisé comme tel. Donc, c'est tout un pan de la population qui n'est pas représenté, entre guillemets, dans ces exercices de concertation-là. Et aussi, c'est qu'il faut être digne d'y être invité.
Il faut être gentil,
il faut être un interlocuteur raisonnable, comme par exemple, on peut prendre un autre exemple, là, cette fois-ci plus récent, je parlais de la classe tout à l'heure, pendant la grève étudiante de 2012, à la table de négociation, combien de fois est-ce que on menaçait d'exclure la classe des négociations parce qu'elle était pas gentille, parce qu'elle était pas conciliante, parce qu'elle refusait de les membres de la classe refusaient de mettre fin aux moyens de pression en même temps que les négociations, refusaient finalement de jouer le jeu du pouvoir et de l'État. Donc, faut être digne pour y être invité, mais faut vouloir y participer aussi. Donc, puis quand on y participe, quand on accepte de participer, évidemment, à un tel processus, ben là, tout d'un coup, on fait partie des gentils, hein, on fait partie de ceux qui sont dignes. Puis à ce moment-là, c'est exclusif. J'en reviens à l'exclusion, c'est-à-dire que ceux étant des groupes qui n'y participent pas, ben eux, de facto, sont jugés non gentils et non dignes de.
Non dignes d'être là.
Donc. On peut prendre d'autres exemples également, plus à l'échelle internationale. Je vais donner quelques exemples au Québec, mais par exemple à l'échelle internationale, on peut parler des grandes rencontres sur l'environnement. Qu'est-ce que les groupes écologistes font là, au juste? Ont-ils vraiment les mêmes intérêts, je sais pas moi, que les pétrolières, que les minières? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont influencer des décisions lorsque l'enjeu, c'est la survie d'une activité économique qui rapporte des milliards de dollars? Parce que souvent, on se fait dire ça, hein, par les groupes qui veulent qui acceptent de participer à ce genre d'exercice de concertation-là, de dire, ben oui, mais faut être assis à la table, faut avoir notre mot à dire, ils vont nous écouter, ils vont... Est-ce que c'est vraiment, ils vont nous écouter? Est-ce que c'est vraiment ça la question? Parce que, pour résumer, ça m'amène un peu à notre conclusion, pour résumer, c'est que, pourquoi il faut toujours se poser une question quand on est face à un exercice de concertation comme ceux-là, soit organisé par l'État ou peu importe, soit qu'on est face à ça ou soit qu'on songe y participer, il faut se demander quels intérêts l'exercice de concertation sert-il, tu sais. Puis souvent, pour nous aider à le savoir, on n'a qu'à regarder qui est invité et qui ne l'est pas, et qui refuse d'y participer et qui accepte d'y participer. Déjà, ça nous donne souvent un bon indice de à qui sert cet exercice-là et à quoi il va servir. Et parce que, puis toujours garder en tête que quand on participe, quand on accepte de participer, ben c'est comme si on légitimait ce processus-là. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on légitime un processus d'exclusion, c'est qu'on légitime un processus de que des certaines voix vont être tues au détriment des autres. Donc c'est toujours quelque chose dont qu'il faut garder en tête avant également d'accepter ou non de participer à ces exercices-là. Puis moi je vous dirais que en conclusion, tant qu'à accepter de participer à des exercices bidons comme ça qui ne font que construire un pseudo-consensus social, ben mettons sur pied nos propres exercice de concertation, comme par exemple l'initiative du printemps 2015, l'initiative actuelle où est-ce qu'il y a un foisonnement d'idées pour organiser la résistance à l'agenda capitaliste d'austérité du gouvernement en place pour converger vers un mouvement de masse au printemps 2015.
Alors, c'est un dossier à suivre. Et donc, la concertation, une question de gentillesse ou de stratégie. Marie-Ève de la Claque, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette chronique.
C'est un plaisir.
On poursuit en musique avec Cheek et la pièce Refus Global.